parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il est important de revenir dans ce texte. Il est question, vous avez compris, pour les habitués de ce lieu, les habitués de l'évangile, il est question de cette femme qui est enceinte. Et donc Jésus, vous comprenez que c'est une vision que Jésus donne à Jean, alors que Jésus est déjà venu sur la terre, Jésus est déjà remonté au ciel. Donc ce n'est pas quelque chose à venir. Jésus est en train de lui donner, de lui montrer que dans le ciel, avant que les choses ne se passent sur la terre, les choses s'étaient d'abord déroulées dans le ciel. Ne vous inquiétez pas, il y a une traduction, donc on essaie de faire comme ça. Ne soyez pas inquiets. Voilà, on va permettre à nos amis, donc anglophones, anglophiles même, de pouvoir aussi bénéficier donc, de la parole de Dieu. Donc soyez attentifs, regardez-moi, ayez les yeux fixés sur moi seulement, ayez vos oreilles complètement rabattues dans mon sens, et vous verrez, tout se passera bien. Donc je disais qu'il est question de cette femme qui est enceinte, qui porte un enfant dont la destinée est toute particulière. La destinée est celle de venir justement paître les nations, de venir au secours des nations qui sont éloignées de Dieu. Des nations qui sont éloignées de Dieu à cause de la séparation justement de l'humanité d'avec Dieu causée par le péché de l'être humain. Et donc à cause de cela, la Bible nous dit, parce que Dieu l'a déjà déclaré dans Genèse, qu'il va envoyer un rédempteur. Et ce rédempteur aura pour but de sauver l'humanité et de rétablir la liaison qui était cassée entre Dieu et l'humanité. Et pour cette raison, Jésus qui est déjà remonté au ciel au moment où il va révéler ces choses à Jean, Jésus va lui montrer que les choses avant de se passer sur la terre, avant que la croix, ou du moins même la naissance de Jésus n'ait pu être manifestée sur la terre, les choses se sont d'abord passées dans le ciel. Et donc là, Jésus lui montre que cette femme enceinte qui avait justement le Sauveur en elle va être confrontée à un ennemi redoutable qu'on appelle Satan, le diable, le dragon, appelez-le comme vous voulez, de tous les termes que la Bible le qualifie. Et donc Jésus va lui dire, il faut que tu saches que dans le ciel, il y a d'abord eu une bataille féroce entre les anges de Dieu et les anges de Satan, ou du moins ceux qui ont été déchus avec Satan parce que Satan n'en a pas créé, il a juste embobiné et entraîné avec lui le tiers. Et donc Jésus va lui montrer cette chose pour que Jean, pour que nous aussi aujourd'hui encore, nous soyons au bénéfice de cette révélation, pour que nous comprenions qu'avant que Jésus ne soit manifesté sur la terre, les choses se sont d'abord passées dans les cieux. Satan a voulu empêcher la venue du Messie sur la terre. Satan a voulu, la Bible nous dit clairement dans ce que nous avons lu, que Satan n'avait qu'une seule chose dans sa tête, s'il en a une du moins, c'était de vouloir tuer l'enfant que la femme devrait enfanter. Et donc, la Bible nous dit que Dieu s'est chargé justement de protéger cette femme afin que l'enfant qui devait naître ne puisse pas subir le sort que Satan lui avait déjà réservé. La Bible nous dit que Michel, vous connaissez Michel, c'est l'archange. L'archange Michel avec les anges de Dieu ont combattu Satan avec ses anges. Et la Bible nous dit que Michel et les anges de Dieu ont été vainqueurs sur Satan. Et de ce fait, Satan a été précipité. Il a été mis hors du ciel. Désormais, il n'est plus autorisé à avoir accès dans la présence de Dieu. Parce qu'il pouvait encore avoir accès dans la présence de Dieu où il venait accuser justement ceux et celles qui étaient sur la terre. Et ce qui est intéressant ce matin, c'est de voir ce que Jésus veut que Jean puisse comprendre, est-ce que nous aussi ce matin nous devons comprendre? Il dit, attention, il y a une réalité. Satan a été précipité des cieux, c'est une réalité. Mais il faut que vous sachiez, les cieux peuvent se réjouir, les habitants des cieux également. Mais vous qui habitez la terre, il faut que vous soyez conscients qu'il y a désormais sur la terre un ennemi redoutable. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit, réjouissez-vous cieux et habitants des cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car Satan est descendu vers vous, animé de quoi ? D'une grande colère. Car il sait qu'il a peu de temps. Vous comprenez maintenant la raison pour laquelle, lorsque même Jésus va être sur la terre, il va qualifier Satan comme étant le prince de ce monde. Celui qui spirituellement est aux manettes pour diriger le monde dans lequel nous sommes. Alors, voici le monde dans lequel Jésus va finalement venir, va s'incarner sur la terre. C'est un monde qui lui est complètement défavorable. Un monde qui est, permettez-moi le terme ce matin, qui est managé par Satan. Un monde qui est dominé par Satan. C'est le monde dans lequel le Messie va être manifesté. C'est le monde dans lequel le Messie va venir au monde. Donc ce n'est pas un monde favorable à l'évangile, ce n'est pas un monde favorable à Dieu, non. C'est un monde qui lui est défavorable parce que l'ennemi de nos âmes est celui qui sur la terre manage toutes choses. Et Dieu avait promis justement de sauver. Il fallait que son fils, du moins le Rédempteur, vienne sur la terre. Et de ce fait, nous allons lire maintenant un texte dans l'évangile de Luc et nous allons voir. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. La suite. Merci. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle sur cette terre qui est empoisonnée par Satan. Je viens pour vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » D'où le titre de mon message. Noël, sujet de grande joie. Et nous verrons plus loin. Donc je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Et dans la suite, l'ange va dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Voici, Dieu, au moment venu, au moment opportun, au moment arrêté souverainement par lui-même, va envoyer son fils sur la terre, va s'incarner. Il va, vous connaissez tous l'histoire de l'ange Gabriel qui va aller chez cette jeune fille, Marie, pour lui annoncer que Dieu lui a fait grâce de porter le Sauveur, d'être une mère porteuse pour le Sauveur. C'est extraordinaire, Marie était une femme extraordinaire. comme toutes les autres femmes de son temps. Mais Dieu, parce qu'il est souverain, il a choisi lui-même Marie. Et il va faire venir le Messie à travers Marie. Et lorsque ce Messie va venir au monde, les anges, lorsqu'ils viennent pour l'annoncer, ne serait-ce qu'aux bergers qui étaient là pour faire paître leur troupeau, il va leur dire, ne vous inquiétez pas, ne craignez pas, ne soyez pas effrayés, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Et nous aimons tous les bonnes nouvelles. Nous aimons tous entendre de bonnes choses. Alors que la terre était infectée par Satan, alors que la terre était contrôlée par Satan, alors que la terre était entre les mains de Satan et il en faisait ce qu'il voulait. Et quand je vous dis la terre ici, je ne suis pas en train de vous parler de la poussière de la terre, je parle de l'humanité. L'humanité était dans les mains de Satan, il en faisait ce qu'il voulait. Il manipulait l'humanité, nous l'avons lu dans Apocalypse, celui qui séduit la terre. Et la Bible nous dit que finalement, le but du Sauveur, c'est de venir rétablir quoi? De venir rétablir la joie et de venir rétablir la paix sur la terre. Va dire, c'est une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple et qui est peut-être pour quelqu'un d'entre nous ce matin. Je veux te dire, mon ami, que la naissance de Jésus est le plus beau cadeau que Dieu puisse faire à l'humanité. Il n'y a pas de meilleur cadeau que celui d'envoyer son Fils, comme Dieu l'a fait pour nous restaurer, pour nous rétablir dans une relation véritable avec lui qui est le Créateur et qui veut être pour chaque être humain un Père, ou du moins le Père. Sujet de grande joie. Pourquoi? Parce que le Messie est enfin arrivé sur la terre. Figurez-vous, pendant des années, 700 ans, à peu près avant que Jésus ne soit manifesté physiquement sur la terre, il y a un homme appelé Esaïe qui a prophétisé, qui a dit « la Vierge enfantera ». Et vous imaginez quand cette prophétie a retenti au milieu de la génération d'Esaïe, ils ont dû, génération après génération, attendre que le Messie arrive. Ils devaient attendre, mais c'est quand que ce jeune, que ce Messie va arriver? C'est quand que cette Vierge va enfanter? C'est quand qu'il arrivera? Mais il va arriver au temps arrêté par Dieu, 700 ans environ, après la prophétie d'Esaïe. Et lorsqu'il est manifesté, la Bible nous dit, alors que dans Apocalypse, nous avons lu quoi? Nous avons lu que les cieux pouvaient se réjouir, et les habitants des cieux également. Pour quelle raison? Parce que finalement, Satan avait été éjecté du ciel. Et ils pouvaient se réjouir, mais que à nous, les hommes et les femmes, les terriens, nous devons nous inquiéter parce qu'il était descendu vers nous, enflammé d'une colère, parce qu'il savait qu'il lui restait peu de temps. Et là, quand le Fils de Dieu est manifesté, quand le Messie enfin est né, la Bible nous dit que cela doit être pour vous et moi un sujet de grande joie et de paix. Cela doit nous procurer la paix, là où il n'y avait pas de paix sur la terre. Dans ce que Jésus a montré à Jean, désormais avec Jésus qui était sur la terre, il y avait la paix. C'est pour cette raison qu'on l'appelle le prince de paix. Il est venu rétablir une relation qui était cassée. C'est pour cette raison que le péché, ce n'est pas d'abord l'acte que nous commettons. Non, le péché, c'est d'abord le fait d'être séparé de Dieu. Ce n'est pas d'abord l'acte, parce que l'acte que nous commettons est justement lié au fait que nous soyons séparés de Dieu. Tout homme sur cette terre, toute femme est séparée de Dieu, à la base. Mais en son Fils Jésus-Christ, nous pouvons être justement reconnectés avec Dieu. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu parce que Dieu a envoyé son Fils justement pour rétablir cette liaison qui à Éden avait été cassée à cause du péché. Cette liaison qui avait été rompue à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et donc Dieu va envoyer son Fils pour rétablir toute chose, pour que le lien qu'il y avait entre le ciel et la terre, le pont qui avait été cassé à cause du péché soit rétabli. Et aujourd'hui, quand tu regardes ce Jésus et que tu considères ce qu'il a fait et dit et que tu sois capable volontairement de recevoir, d'accepter ce que lui a fait et dit, et de l'accepter lui comme ton sauveur et ton Seigneur, en ce moment-là, tu rentres dans la réconciliation avec Dieu. Tu rentres dans la joie de Dieu. Tu rentres dans la paix de Dieu. Tu rentres désormais dans la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que ce Jésus-là devient ton sauveur. C'est ce que l'ange a dit au berger. Et je vous annonce une grande nouvelle. C'est qu'un sauveur vous est né. Le Christ, le Seigneur, celui qui vient vraiment mettre en branle toute la puissance de Satan. C'est pour cette raison que la Bible dit que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a livré en spectacle Satan. Spirituellement, vous et moi ne pouvons voir Satan avec nos yeux. Mais le combat spirituel, c'est ce que Jésus a voulu montrer à Jean. Pour dire, il faut que les gens sachent que les choses sont d'abord spirituelles. Est-ce que les choses que Jean nous révèle dans Apocalypse, quelqu'un les a vues de ses propres yeux physiques? Les choses sont d'abord spirituelles. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et donc, c'est un sujet de grande joie et de paix. Et c'est de cela que nous devons nous rappeler en ces temps. Oh, je ne suis pas en train de vous dire que Jésus est né le 25 décembre. Non, ce n'est pas cela mon but. Mon but, c'est juste de dire que nous devons nous rappeler que ce sauveur est né un jour, que ce sauveur est venu sur la terre un jour, que ce sauveur est venu accomplir la volonté de Dieu, que ce sauveur est allé jusqu'au bois de la croix, livrer sa vie, afin que tous ceux et toutes celles qui le reçoivent comme leur sauveur et leur Seigneur aient la vie éternelle. Et l'éternité de Dieu. Et l'éternité de Dieu, qui là aussi, peut-être, n'a ni couleur, ni odeur sur cette terre. Mais je peux vous assurer que l'éternité de Dieu est réelle, que l'éternité de Dieu est une réalité, est une vérité. Parce que Dieu ne ment pas, Dieu dit toujours la vérité. Jésus, quand il est venu sur la terre, un sujet de joie, un sujet de paix. C'est pour cette raison que, en ces temps particuliers, nous devons nous souvenir que ce Jésus-là, il est venu pour nous apporter justement cette joie et cette paix, parce qu'au milieu justement d'un monde où c'est Satan qui contrôle, aujourd'hui c'est Satan qui contrôle toujours, mais lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous passons justement de ceux qui sont contrôlés par Satan à ceux qui sont libérés en Jésus-Christ. Nous avons la liberté en Jésus, nous ne sommes plus contrôlés par lui, c'est pour ça que Jésus va dire, même si vous vivez encore physiquement dans ce monde, mais sachez que désormais, que lorsque vous acceptez, vous m'acceptez comme sauveur et Seigneur, vous n'êtes plus de ce monde, parce que vous êtes libérés justement de l'emprise de celui qui est le prince de ce monde. Vous êtes désormais libres, libres en Jésus, libres en Christ. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est venu aussi pour nous apporter la liberté. Et nous allons maintenant voir, pour conclure, ce que Jésus va donner toujours comme révélation cette fois-ci, du moins toujours à l'apôtre Jean. Nous allons voir un résumé pour comprendre finalement, une fois que nous sommes réconciliés avec Dieu, qu'est-ce que nous pouvons justement en attendre de cette réconciliation? Eh bien oui, parce qu'on ne se réconcilie pas juste pour se réconcilier, on se réconcilie avec un but précis. Lorsque deux parties ou plusieurs sont fâchées entre elles, elles peuvent se réconcilier pour la paix. Elles peuvent se réconcilier, je ne sais pas, pour beaucoup d'autres choses. Et nous allons lire dans la première épître de Jean, au chapitre 5, à partir du verset 10. Voici ce que Jean nous rappelle. Celui ou celle, bien sûr, qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même, en elle-même. Celui qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas Dieu, le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Quel est ce témoignage? C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils, dans Jésus, bien évidemment. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Jean s'adresse à des chrétiens et dit, il faut que vous ayez des certitudes. Il faut que vous ayez des choses complètement marbrées sur votre cœur. faut pas que vous alliez de gauche à droite avec des pensées qui sont incertaines. Il faut que vous sachiez que dès lors que vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur, vous avez la vie éternelle. Parce que Dieu a voulu que la vie éternelle soit dans son Fils. Et quand nous poursuivons la lecture, voici ce que Jean nous dit. Il dit, maintenant que nous avons cette certitude, alors qu'avec Dieu nous n'avons plus de contact, nous ne pouvions plus parler, nous ne pouvions plus communiquer, voici ce que Jean nous dit. Dès que tu es convaincu en tant qu'enfant de Dieu que la vie éternelle est en toi, que tu es réconcilié avec Dieu, la communication avec Dieu est rétablie. Et parce que la communication avec Dieu est rétablie, donc la Bible nous dit, Jean du moins, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, et il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Voici maintenant que la liaison est rétablie. Vous savez, c'est quand deux êtres humains sont brouillés, ne se parlent plus. Même dans le pays de France, il y a une institution, j'appellerai ça comme ça, qu'on appelle le médiateur de la République, qui est censé faire la médiation. Et Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Une fois que Jésus, le médiateur, est accepté par quelqu'un, en ce moment-là, les deux parties qui ne se parlaient plus, les deux parties qui ne communiquaient plus, vont désormais rentrer à nouveau en communication ou en contact. Et c'est ce qui va se passer. Et là, la prière fait partie de cela. L'apôtre Jean nous dit, ben oui, maintenant désormais vous pouvez prier, vous pouvez avoir même une assurance dans votre prière. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en Jésus, Dieu vous a pardonné. Parce que vous savez qu'en Jésus, Dieu a remis tous vos péchés, qu'il vous a aimé et qu'il vous a rétabli dans une relation bien profonde avec lui. Et de ce fait, vous pouvez désormais lui parler sans passer par qui que ce soit. Parce que vous avez une assurance que vous êtes rétabli dans une relation avec lui. Et ensuite, il va dire, mais il ne faut pas que vous pensiez seulement à vous. Il y a aussi les frères. Et oui, Jésus doit nous rappeler aussi que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans une famille qui est composée de frères et de sœurs. Et c'est ce que Dieu aime à nous faire comprendre. Nous ne sommes pas seuls au monde en disant, ben oui, je suis tout seul. Non, nous sommes dans une famille. C'est pour cette raison que Jean dit, mais si tu vois ton frère, par exemple, qui pêche, qui commet un péché, il ne dit pas qu'il faut le juger, vous avez remarqué. Comme moi, il dit, ben non, il faut prier pour la personne. Pour que Dieu puisse justement faire quoi? Sauver la vie de cette personne, la vie de ce frère, la vie de cette sœur. Donc il y a aussi là une relation horizontale. Jésus n'est pas venu que rétablir une relation verticale entre les êtres humains et Dieu, mais il est venu également faire en sorte que nos relations horizontales, c'est-à-dire avec les autres, soient de bonnes relations, de relations de qualité. La venue de Jésus doit nous rappeler cela aussi. Parce que quand Jésus va être physiquement sur la terre, il va toujours rappeler à ceux qui vont le suivre et à celles qui le suivaient, il va leur rappeler toujours d'être en paix avec les autres. D'aimer les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et la petite dernière diapo. Nous savons, c'est l'apôtre Jean qui déclare, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Donc il est important, frères et sœurs. Jésus, il y a deux venues, il faut que nous sachions. La première venue de Jésus, c'est l'agneau qui est venu. qui est venu se sacrifier. La deuxième venue, ce n'est plus l'agneau qui va arriver, c'est le lion. C'est le lion qui va venir pour rétablir toutes choses, avec la force et la puissance. Jésus est venu tel un agneau, c'est ce que Ésaïe nous dit, il est venu se sacrifier pour le péché. Mais quand Jésus reviendra, ce ne sera plus comme un agneau, mais comme le lion, qui va venir rétablir toutes choses avec sa puissance et qui va prendre avec lui son Église. Et c'est pour cette raison que Jean va nous dire, nous savons que nous, qui avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous sommes de Dieu et que le monde entier est toujours sous l'emprise du malin. Parce que Jésus n'est pas encore venu pour rétablir toutes choses de façon définitive. Et de ce fait, le malin contrôle toujours. Donc, frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons faire attention, pardon, nous devons faire attention. Ce n'est pas pour vous faire peur.